RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Encore une fois, un excellent dimanche sur RMC. Et en ce 23 avril 2017, je vous souhaite un excellent week-end, bien évidemment. Attention, n'oubliez pas d'aller voter aujourd'hui. À partir de 8h sur RMC, pas de rendez-vous automobile, puisque la rédaction d'RMC vous proposera un spécial élection présidentielle présenté par Thomas Chupin et Chloé Cambrelin. Donc à partir de 8h, et on reviendra avec Jean-Luc Moreau dimanche prochain. Laetitia, pour cette deuxième partie dédiée aux animaux, tout à l'heure, on va évoquer les gestes de premier secours pour quand on a un problème avec son animal de compagnie.
Et hein. Oui, il existe maintenant des formations premier secours canin et félin, c'est incroyable, c'est non
super.
On parlera aussi du juridique parce que voilà, on aura Xavier Baquet avec nous, notre avocat préféré, qui parlera de la vente entre particuliers de chiens et de chats. Et nous finirons par un drone pour protéger les animaux sauvages.
Et qui est silencieux.
Comme
ça,
c'est un ingénieur,
les animaux n'ont même pas peur.
Alsacien qui a eu l'idée de ce drone.
Voilà, on découvrira cette innovation tout à l'heure. Mais pour débuter, on va parler de l'intelligence animale avec notre invité.
Avec Yolaine Delabigne, qui est co-auteur de « L'animal est-il l'avenir de l'homme ?» aux éditions Larousse. Yolaine, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio.
Merci de m'inviter.
Alors, dans ce livre, vous avez réuni 7 experts du monde animal sur une thématique passionnante, bien sûr, l'intelligence des animaux. Et d'abord, pourquoi ce titre ?
L'animal est-il l'avenir de l'homme ? A priori, c'est une question, mais je pense que c'est pour moi une affirmation.
Oui, l'animal est l'avenir de l'homme. Alors, pourquoi l'animal est l'avenir de l'homme ?
Parce que, en fait, au-delà de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, l'environnement, l'arrivée des robots, l'intelligence artificielle, etc., je pense qu'on est vraiment face à un problème d'intelligence collective. Quand on voit des gens comme Trump, on se dit qu'il y a vraiment... il faut travailler la question. Et parmi les pistes de cette intelligence collective, il n'y a pas que celle-là, mais parmi les pistes intéressantes, c'est l'intelligence des animaux. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on arrive à un moment qui est révolutionnaire à ce niveau-là. C'est à la fois la science, où on découvre des tas de choses, parce que l'éthologie est une science extrêmement nouvelle, qui s'est développée dans les années 50. Donc
oui,
l'éthologie, je rappelle, c'est l'étude du comportement de l'animal pour mieux comprendre l'homme. Donc là, il y a plein d'études qui sortent et qui sont extrêmement troublantes, qui montrent à quel point les animaux ont une intelligence, une conscience, des émotions, de la solidarité, enfin tout ce dont on va parler. Mais Darwin l'avait déjà dit, et personne ne l'avait compris. Ce qu'il y a extraordinaire aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une ferveur populaire. Tout d'un coup, les gens sont prêts. Les gens sont prêts à écouter ça. Et du coup, ces deux mouvements font, une vraie pensée très révolutionnaire où on se rend compte qu'en fait, ça remet en question la suprématie de l'homme, finalement. C'est-à-dire que ça fait des siècles qu'on nous dit que l'homme est le seul qui l'aurait le propre de l'homme, l'homme est le seul qui a le sens de la solidarité, le sens de la mort, le sens de la spiritualité, l'intelligence, etc. Et on se rend compte que c'est faux. Donc c'est hyper troublant parce qu'on se rend compte que des animaux qu'on avait méprisés jusque-là ont non seulement les mêmes qualités que nous, mais parfois des qualités supérieures à nous.
On en parlait tout à l'heure avec le quiz,
les fourmis
et l'agriculture, qu'elles ont inventé avant l'homme.
Absolument. Et c'est vrai qu'en lisant ce livre, on a l'impression qu'on on se regarde plus le nombril et on est vraiment, on se sent peut-être petit par rapport à certaines intelligences animales, de petits ou de grands animaux, ce qui est incroyable.
Alors je pense pas qu'il faut se dire qu'on est petit. Je pense qu'il faut se dire que par contre, qu'il faut qu'on soit plus humble et qu'on arrête de penser qu'on est unique. On est dans une grande chaîne. En fait, c'est ça la magnifique leçon quand on travaille sur l'intelligence animale. C'est que quand vous parlez de l'animal, en fait, vous parlez de l'homme. Quand on s'interroge sur l'animal, on s'interroge sur l'homme. C'est ça qui est passionnant.
On fait des parallèles, c'est
exactement
sûr.
Et tant mieux. Ce qui est génial, en fait, c'est qu'on se rend compte que tout est relié. Et on a cru qu'on était différent, et en fait tout est relié. Il y a une autre intelligence qu'on est en train de découvrir, c'est l'intelligence végétale. Il y a des livres qui sortent actuellement sur la communication entre les arbres, etc., qui sont là aussi extrêmement troublants quand même. Quand les arbres entre eux se parlent, se apprennent à se défendre, se préviennent du prédateur qui arrive, etc., c'est dingue quoi. Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'on se rend compte que l'homme n'est qu'un élément dans toute une reliance qui est assez magnifique d'ailleurs, qui est une grande solidarité. Bon, le problème, c'est qu'on est un peu en train de ficher en l'air cette fameuse liaison entre les êtres humains et les autres. Et c'est pour ça que c'est bien de prendre conscience des choses et d'essayer de rectifier le tir. Et c'est là où l'intelligence animale peut vraiment nous aider. On peut apprendre beaucoup de choses des animaux.
Alors justement, on va passer à des exemples.
Allez.
Par exemple, les baleines. On connaît leur chant. Alors, tout le monde dit, elles chantent, c'est la parade nuptiale. Mais pas que.
Alors loin de pas que, en effet, parce que donc là on avait reçu Pierre Lavagne, qui est un bioacousticien, qui en fait il a démarré, il faisait de la musique, c'est un musicien, donc il s'amusait à faire de la musique sur son bateau, et puis les baleines venaient et répondaient. Donc déjà, il enregistrait de la musique avec les baleines, ce qui est déjà assez génial.
Ça veut dire qu'elles étaient sensibles à la musique qu'il diffusait.
Totalement. Et alors lui, il va très très loin dans ses recherches, parce qu'en fait, ça fait des années qu'il recherche ça. Il a même créé un instrument de musique pour pouvoir aller dans le fond de l'eau et répondre aux baleines. Et en fait, il s'est rendu compte de plusieurs choses. C'est que à un moment, il y avait... Alors déjà, c'est que les mâles qui chantent à partir de 50 ans. Il nous a fait écouter une école de musique. Je vous jure que ça fait un effet. Vous entendez une baleine, alors je vais le faire très mal, hein, oh, comme ça, puis tout d'un coup, vous entendez... Vous avez deux petits baleineaux, deux bébés qui imitent, et en fait, ils vont à l'école de musique jusqu'à 50 ans, et à partir de 50 ans, le mâle va pouvoir chanter. Donc déjà, vous êtes un peu scotché. Et après, ils se sont rendu compte qu'il y avait des chants bizarres à certaines périodes, ils comprenaient pas pourquoi. Alors, c'est pas encore prouvé scientifiquement, mais il y a des tas de scientifiques qui reprennent cette théorie, notamment Pascal Pic qui travaille là-dessus. Ils pensent que, comme par hasard, ces moments où la baleine est pleine, et en fait, ces chants étranges ont des réactions chimiques sur le phytoplancton. On sait que le phytoplancton, c'est la nourriture des baleines, oui. De façon à ce que ce phytoplancton soit enrichi d'oligo-éléments, de nutri-éléments, pour qu'il soit d'une qualité absolument extraordinaire quand la baleine va mettre bas et elle va avoir son petit. C'est déjà incroyable.
C'est-à-dire que le chant des baleines a une action sur le
phytoplancton. Oui, voilà. Exactement.
À un moment précis où la baleine en a besoin.
Voilà. Ouais. Mais c'est pas fini. C'est-à-dire qu'ils s'amusent avec des amis apiculteurs et viticulteurs à mettre des chants de baleines dans les végétaux parce qu'ils se rendent compte que même les végétaux sur Terre sont sensibles à ces réactions chimiques. En fait, c'est des vibrations. Les chants des baleines, c'est de la vibration. Et du coup, le vin commence à être de meilleure qualité parce que les raisins sont plus épanouis, plus de meilleure qualité, et pareil pour la vigne. Donc ça, par exemple, c'est dingue
parce que vous racontez, alors vous le racontez magnifiquement tendance. Bien, mais
je suis pas très scientifique quand je
non,
le raconte.
Non, mais ça prête à sourire on se dit tiens, s'il suffit de diffuser de la musique ou alors des sons auprès d'une vigne pour que le vin soit meilleur, ça peut faire doucement rigoler aussi.
Oui, mais ça peut être en même temps assez révolutionnaire
oui,
dans le sens
sûr.
Que ça peut nous aider.
C'est dingue.
Et justement, quand on parlait tout à l'heure des champs de baleines et des humains, ils sont aussi sur une autre piste incroyable, c'est retrouver certains sons des peuples premiers. Ces peuples premiers qui étaient sur des îles, en fait, se sont inspirés dans leurs chants des chants des baleines et vice-versa. Et ils sont en train de faire des recherches pour retrouver certains sons des peuples premiers grâce aux chants des baleines. Ça aussi, c'est vertigineux quand même. Comme...
Ce qui veut dire que la baleine nous a appris la musique.
Alors, elle nous a appris, mais on lui a appris aussi la musique. Et c'est là où on revient toujours à cette reliance, cette liaison entre les êtres humains. C'est qu'on se rend compte qu'elles écoutent les sons et on écoute les leurs. Et que nos ancêtres s'inspiraient de ces sons. Et là aussi, il y a des recherches incroyables qui sont en train d'être faites. Et d'ailleurs, Pierre Lavagne, son rêve, c'est de faire un tour du monde des peuples premiers avec des enregistrements de ces chants des baleines pour faire tout un travail énorme au niveau ethnologique.
Yola et Laetitia, on revient dans un instant. Un autre exemple ?
Oui, Laetitia. Les bonobos.
Les bonobos. Bon, est-ce qu'on va être obligé de mettre le petit carré interdit au moins deux ? Yolaine, où est-ce que ça reste soft?
Oh non, oui, c'est très soft.
Non, parce qu'avec les bonobos, de temps en temps, avec Laetitia, ça dérape.
Ah oui, c'est pas mal comme genre de dérapage, non?
Oui, bien sûr, c'est la nature, comme on dit.
C'est la nature.
Le sexe, ça fait partie des plaisirs de la vie. Alors.
Vous avez tout à fait raison. Alors écoutez, dans un instant, vous savez à quelle sauce vous allez être dégusté, en quelque sorte. A tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts.
RMC, 6h-8h, vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera.
Nous voilà de retour, le week-end des experts, les animaux, avec Laetitia Barlera qui m'accompagne jusqu'à 8h. Notre vétérinaire, et nous avons le plaisir d'accueillir ce dimanche Yolaine de la Bigne à l'occasion du livre « L'animal est-il l'avenir de l'homme ?» dont elle est le co-auteur.
Voilà, et alors on parlait de l'intelligence animale, alors on parlait des baleines, alors moi j'aimerais parler des bonobos, parce que dans votre livre, un des auteurs est Claudine André, qui est bien connue pour son refuge pour bonobos orphelins en République démocratique du Congo, Lola Ya Bonobo, et c'est vrai qu'elle parle de l'intelligence de ces singes si proches de l'homme. En fin de compte, ils nous ressemblent. Ou ils nous donnent des exemples peut-être aussi.
Ils nous ressemblent incroyablement et ils peuvent nous donner, alors eux, je pense qu'ils peuvent nous donner des leçons en politique. Ça tombe bien aujourd'hui.
Alors justement, en diplomatie...
Il n'y a pas que, hein, les chevaux aussi peuvent nous donner de grandes leçons.
Ça, c'est clair.
Mais les bonobos ont une... des règles sociales qui sont absolument géniales. Et on ferait mieux de s'en inspirer.
Alors pour
le
coup,
on les appelle les hippies de la forêt, faites l'amour pas la guerre, mais ils le font. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les femelles qui dirigent. Alors pas officiellement, c'est comme chez les humains. Officiellement, c'est le mec qui a le pouvoir. Mais en fait, c'est les femelles qui tirent les ficelles et qui mènent exactement tout ça par le bout du nez et d'autres choses.
Sans que les mâles s'en rendent compte.
Sans que les mâles s'en rendent compte, parce qu'en fait, ils aiment bien la façon dont elles tirent les ficelles.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un problème, tout est géré sexuellement. Donc en fait, pour apaiser les tensions, dès qu'elles voient qu'il y a un souci entre deux mâles, hop, elles interviennent, elles font des câlins, elles font des bisous, elles les épouillent, etc. Et les mâles se calment. Si elles voient qu'un mâle, parce qu'elles aiment bien le pouvoir aussi, si elles voient qu'un mâle prend un peu trop de pouvoir quand même par rapport à une autre femelle, hop, elle arrive, elle le détourne, pareil, elle l'épouille, elle lui fait des bisous, des câlins, et hop, une petite séance de sexe. Alors c'est pas une séance de sexe très très sensuelle, hein. C'est quand même
c'est assez rapide. D'après ce que j'ai compris, hein.
On va dire que
mais efficace.
Mais très efficace. Et ce que je trouve merveilleux chez les bonobos, c'est que c'est vraiment un peuple de l'amour. Et Claudine, en fait, elle explique un truc formidable. En ce moment où il y a des drames au Congo, bon, elle a découvert les bonobos en pleine guerre, où c'était affreux. Et un jour, une copine lui dit, t'as été voir le zoo? Elle dit, ben non, j'ai pas été voir le zoo. Du coup, elle y va. Et elle tombe sur un zoo dramatique avec des hommes en train de mourir, des bêtes en train de mourir. Enfin, un truc affreux. Elle se dit, je vais sauver quand même ces animaux. Et on lui apporte un espèce de petit bébé. Et le directeur lui dit, écoute, lui, il laisse tomber, de toute façon, il va mourir. On n'a jamais réussi à les sauver, c'est un bonobo, ils peuvent pas vivre. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'un bonobo, vous pouvez toujours lui donner de la nourriture, etc., ou de l'eau, il s'en fiche, il a besoin d'amour.
C'est dingue, ça.
C'est
donc,
magnifique.
Besoin de câlins,
voilà.
De...
Si il a besoin de vivre pour quelqu'un, comme les êtres humains, il a besoin de vivre pour quelqu'un. Vivre en soi ne l'intéresse pas. Donc, tous les bébés mouraient. Jusqu'à ce que Claudine trouve cette méthode qui est magnifique, elle a trouvé des mamans de remplacement. Parce que dans la nature, le bonobo est suivi par sa maman pendant 2 ans. Il est tout le temps accroché à sa maman. Donc elle a trouvé des mamans de remplacement qui sont des mamans qui, toute la journée, on les voit, elles ont 3-4 bonobos.
Non mais des mamans, des
humaines.
Femmes,
des humaines, hein, des humaines.
Nounous.
Okay. Des nounous, voilà. Et pendant toute la journée, la nuit quand même, elles vont dormir aussi, et aussi. Mais toute la journée, elles ont 3-4 bonobos accrochés. Qui ne bougent pas. Et ils sont tellement aimés qu'ils vont finir... Et ils vont accepter de vivre. Ils vont accepter de vivre, et au bout de 2 ans, ils vont vivre. Et après, elle va les relâcher petit à petit dans la nature. Donc la leçon est magnifique, c'est que finalement, enfin on le dit souvent, et je sais pas si nos politiques ont bien compris cette leçon, ils sont parfois un peu hors sol, ce qui dirige vraiment le monde, c'est l'amour. Alors ça peut faire un peu cucu quand on le dit comme ça, on sait bien tous au fond de nous-mêmes qu'il y a que ça de vrai, il y a ça qui nous fait marcher, et ça c'est une des grandes leçons des animaux. Des bonobos, mais d'autres animaux, vous le savez bien, Laetitia, les dauphins, les chevaux, les chiens, l'amour est perdu d'un chien pour vous. Mais voilà, et y a, en fait il y a que l'amour qui vaut le coup. Le reste...
Les chats, ils s'en foutent un petit peu.
Ah non,
ça c'est dit par quelqu'un qui ne connaît pas les chats.
Non mais parce que je suis allergique, c'est pour ça.
Ah ça c'est autre chose, ça je comprends, c'est compliqué.
C'est ça, d'accord.
Non, ils expriment différemment leur affection que les chiens qui sont plus dans l'extravertis.
Enfin voilà, le chien vient, a toujours besoin de câlins, etc. Le chat c'est différent, il choisit ses moments.
Mais il choisit les câlins qu'il veut, et il choisit les personnes qu'il veut qu'il le canine, hein, ça c'est sûr.
Mais il est moins démonstratif qu'un chien.
C'est pas la même démonstration, il montre quand même.
Il est très indépendant,
surtout. Voilà, très indépendant.
Il n'accepte pas d'avoir une.
Mais il vit pour lui, donc ça veut dire que il a quand même besoin de câlins, parce que sinon il vivrait pour lui, il viendrait pas. Donc ça veut dire que l'amour, il en a besoin.
Même le
chat qui est indépendant a besoin de cet amour, cette affection. Alors on parle aussi du dauphin dans votre livre aussi. Avec Frédéric Pichard qui dit qu'elle communique par télépathie. Avec les dauphins?
Alors elle est incroyable. En effet, ça fait très longtemps qu'elle a rencontré un dauphin qui s'appelle Donnie. Et elle fait vraiment de la télépathie avec les dauphins. Alors quand on entend ça, on se dit, oula, elle a fumé
elle
la moquette.
Barrée,
franchement,
voilà.
C'est n'importe quoi. Peut-être, et c'est là où on voit qu'on a plein de choses à découvrir. En attendant, quand elle veut voir son dauphin, il a pas le téléphone. Elle lui donne rendez-vous, parfois à Royan, à La Rochelle, etc. Il est là. Donc, il y a un moment où vous dites qu'il existe un sixième sens entre les gens qu'on n'a pas encore découvert. Vous savez, moi, je dis toujours comme truc, au Moyen-Âge, vous auriez dit qu'il y aurait eu un jour la télévision, on vous aurait brûlé directement. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faut accepter qu'on ne connaît pas encore bien. Il y a manifestement des gens qui ont un sixième sens.
Mais concrètement.
Et avec son dauphin, il y a eu des, elle a eu un reportage sur Arte, par exemple.
Elle va à un endroit précis, le dauphin va la retrouver à cet endroit.
Il est là, il l'attend, elle se déshabille, elle se met en combinaison, et il passe 3 heures, et on l'a filmé. hein, donc on l'a filmée plusieurs fois, donc c'est vraiment véridique. Il y a eu tout un truc sur Arte sur elle. Et on la voit qui fait des câlins, ils se parlent, ils dorment ensemble. Et il est là, il danse, il la caresse. Enfin, c'est incroyable. Il y a vraiment une scène d'amitié, et pour ne pas dire d'amour, entre eux qui est assez magnifique.
Impressionnant.
Mais c'est impressionnant, oui.
C'est dingue, mais... ça. Mais ça, en fait, on connaît ça aussi avec les animaux terrestres. Hein. Mais... On parle souvent, nous, de chats, de chiens, qui retrouvent leur domicile comme
bien
ça, après des années d'absence.
Ou alors, un comportement qui a lieu à distance entre un animal et son maître. Son maître, il lui arrive quelque chose, ou l'animal arrive quelque chose.
Et le ressent.
Et le ressent.
Absolument.
Oui. Et ça, c'est vrai que moi, je suis dans. Quand on me demande d'où ça vient, je dis, je sais pas, je peux pas l'expliquer. Aujourd'hui, avec ce qu'on connaît en science, aujourd'hui, on peut pas l'expliquer. Mais ça existe.
Et il y a des faits avérés, parce que après il y a plein de témoignages qui sont déformés avec le temps, voilà. Mais là tout ça c'est vérifié,
ah,
on va
dire. C'est clair. Et puis c'est tous les jours. C'est vraiment son quotidien.
Ah, oui.
Mais elle explique, elle sait pourquoi ou pas?
Non. On est vraiment dans l'instinct et dans la télépathie.
D'accord.
Elle parle beaucoup d'amour. Alors elle dit vraiment qu'elle dit que elle est pas la seule à le dire, hein. Ils le disent tous. C'est ce qu'on appelle des animaux ambassadeurs. C'est des animaux qui viennent vers nous pour nous parler. Il y a des éléphants aussi, hein. On a vu des cas d'éléphants qui vont vers les gens, qui fuient les braconniers et qui vont voir l'armée, ce qui est incroyable, pour se faire protéger.
C'est dingue.
Donc,
ça.
On voit, et cet animal, ce Denis, il vient la voir et il essaye de lui expliquer des choses. Alors qu'est-ce qu'il nous explique? On sait pas très bien.
Comment on découvre. Elle sait comment il nous perçoit.
Ah, ça c'est un petit peu compliqué parce que ça va être forcément assez subjectif.
Mais oui, bien sûr.
Elle va avoir
son interprétation.
Voilà.
C'est sa façon d'interpréter. Ouais. Mais ce qui est magnifique, c'est en effet ce besoin de parler à l'humain et ce besoin de reliance. On revient toujours à la même chose, hein, ce besoin d'unité en fait entre les animaux et les humains.
Violaine, c'est un vrai plaisir que de vous écouter.
Voilà. Ouais.
Merci.
Alors,
on revient dans un instant,
voilà.
Laetitia.
Oui.
On va retrouver la météo et les infos, un peu de sérieux.
Oui.
Et puis, on revient. Alors, on va poursuivre avec Hélène et puis on évoquera l'actualité juridique dans le domaine des animaux. On va aussi apprendre les gestes de premier secours lorsqu'on a un problème avec son animal de compagnie. Et on vous réserve d'autres surprises. À tout de suite. Donc, on revient après la météo et les infos de 7h30.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC.
Laetitia Barlerin. Une petite question flash, est-ce que vous êtes prête à répondre à la question d'Anthony?
Je suis prête.
En moins de 2 minutes maintenant, donc, ma chienne berger belge malinois de 4 ans tête souvent son plaid, la tia-tia. J'aimerais bien savoir d'où ça vient, mais aussi comment faire pour qu'elle ne le fasse plus.
Alors, téter le plaid, c'est un petit peu comme les enfants qui têtent le pouce ou qui têtent le doudou.
Oui, c'est le doudou, c'est ça.
C'est le doudou du chien. Alors, il y a des chiens, c'est un comportement apaisant, c'est un comportement qui vient du chiot, enfin de l'enfance.
Ça leur fait du bien.
Et ça leur fait du bien quand ils sont un petit peu stress ou un petit peu frustrés ou parce qu'ils s'ennuient. Enfin, en tout cas, voilà, ils têtent et ça les apaise. Alors, si elle le fait de temps en temps, il ne faut pas s'affoler. C'est un comportement de chiot, on va dire. Voilà, faut pas s'inquiéter. En revanche, si elle le fait souvent, là, il y a un vrai problème.
D'accord.
Parce qu'il y a vraiment un problème soit d'angoisse, soit de stress, soit de frustration. Alors, c'est un berger malinois. C'est des chiens qui sont hyper actifs, qui ont besoin de beaucoup d'activité. Il faut leur donner des missions. C'est des chiens extraordinaires. Mais c'est un petit peu comme une Ferrari que vous laisseriez dans un garage, quoi.
Ouais, ouais.
Donc, il faut vraiment les stimuler. Donc, s'ils sont pas assez stimulés, ils peuvent avoir ce comportement de succion d'un objet. Enfin, d'un doudou. Donc, c'est pour ça qu'il faut la sortir souvent. Et puis, si vous pensez qu'elle est bien sortie, mais qu'il n'y a pas de raison pour qu'elle stresse, bah, peut-être en parler à son vétérinaire. Il y a autre chose, peut-être, qui la stresse et qui explique ce comportement. Sinon, laissez-lui le plaid ou donnez-lui, je sais pas moi, un doudou.
Il n'y a pas de danger qu'elle suce comme ça le plaid.
Alors non, il y a des chiens qui peuvent avaler, mais ça c'est plutôt les chiots qui avalent. Non, c'est vraiment pour s'apaiser. Et voilà, peut-être qu'elle a besoin de distraction, peut-être qu'elle a besoin d'être sortie plus souvent, d'être stimulée plus souvent. Interrogez-vous, observez-la, regardez-la différemment et essayez de savoir un petit peu ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là.
3216, animaux@rmc.fr. On est là jusqu'à 8h avec Laetitia, tout de suite.
RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est le retour du week-end des experts, les animaux, avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin et Yolaine Delapigne, qui est auteur du livre « L'animal est-il l'avenir de l'homme ?» On parle de l'intelligence des animaux depuis 7h. À suivre votre matinée sur RMC. Pas de rendez-vous auto exceptionnellement, puisque vous le savez, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. J'espère que vous le savez et j'espère surtout que vous allez voter. Attention, à partir de 8h, vous retrouverez une émission spéciale présidentielle présentée par Thomas Chupin et Chloé Cambrelin. Et on reviendra avec Jean-Luc Moreau dimanche prochain. On sera là entre 8 et 10. Laetitia, alors Yolaine Delabigny est toujours avec nous et on accueille Maître Xavier Baquet, notre avocat préféré. Bonjour Maître.
Bonjour.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous avoir avec moi.
Donc on vous présente Yolaine Delabigny, que ben vous connaissez
oui.
peut-être.
Ah, que je connais de nom, oui, j'ai jamais pu
la rencontrer,
mais je connais de nom, oui, bien sûr.
Alors, bien sûr. Xavier, nous revenons avec vous, bien sûr, sur l'actualité animalière en matière de droit. Commençons par faire un bilan, peut-être celui de la nouvelle législation, vous savez, sur la vente des chats et des chiens entre parties. Depuis un an, hein, maintenant ça fait un an, tout particulier qui veut vendre un chat ou un chien doit se déclarer auprès de la Chambre d'agriculture parce qu'il est assimilé à un éleveur et doit avoir un numéro sirène. Alors le but c'est d'encadrer quand même les ventes entre particuliers, éviter les trafics, les ventes sur les sites internet de petites annonces gratuites avec des abus. Pouvez-vous d'abord nous rappeler les obligations d'un particulier qui veut vendre une portée?
Ah bah déjà, effectivement, c'est de limiter les abus, parce que comme vous le savez, avec des annonces gratuites et internet, on peut faire tout et n'importe quoi. Et donc maintenant, la loi essaie d'encadrer cela, et les obligations principales sont quoi? Ce sont déjà de vendre des animaux qui ont plus de 8 semaines révolues, c'est déjà de délivrer un certificat de cession qu'on appelle vulgairement un contrat de vente.
Même entre particuliers. Hein.
Même entre particuliers, parce que c'est lui qui va fixer, j'ai envie de dire, les volontés des différentes parties. C'est délivrer un certificat vétérinaire de bonne santé de l'animal, et puis c'est aussi délivrer alors un texte qui va expliciter à l'acheteur quels sont les besoins physiologiques de l'animal et qu'est-ce que c'est qu'entretenir un animal et respecter un animal. Voilà. Alors c'est vrai que la loi n'encadre pas la tenue de ce texte et la
oui,
manière
dont il doit être rédigé.
Donc c'est un peu tout et n'importe quoi. Parfois c'est assez ubuesque, ce qu'on peut dire.
Identifier l'animal aussi, ça c'est une obligation.
Et, voilà. Et effectivement, identifier l'animal, déclarer à l'acheteur si la lignée de l'animal peut être l'off ou non l'off, parce que pardon. Donc, lit les origines français ou pas, ça c'est important.
C'est un éleveur, quoi.
Bien sûr. Oui, mais il y a aussi des particuliers qui vont vous dire « Ah non, mais il est l'off, hein, je vous l'assure », mais qui vont jamais
oui,
donner
sûr.
La lignée maternelle.
Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire l'off, Laetitia ?
L'off, c'est avec pédigré. Alors, avec pédigré, c'est-à-dire les parents ont un pédigré et le chiot a ce qu'on appelle un certificat de naissance que doit vous donner l'éleveur ou le particulier qui prouve
qui certifie que
ses parents sont... ont un pédigré, ou concernant le chat, c'est carrément le pédigré qu'on vous donne.
D'accord. Alors, ça sert pour la reproduction, pour se les faire reproduire, ça sert pour les concours de beauté des animaux, si les particuliers... moi, si je prends mon exemple, quand j'étais adolescent, je faisais pas mal de concours de beauté avec ma chienne Grenendal. Bon, voilà,
Vous faisiez des concours de beauté vous-même, maître.
Là, j'ai passé l'âge. Non, mais je suis plus. Mais là.
Mais rappelons que vous-même, vous êtes l'off, hein, maître.
Je sais.
Mais surtout, Xavier, ça justifie aussi le prix du chiot ou du chat.
Exactement, c'est-à-dire qu'on peut passer de 500 euros à 1500, voire 2000 euros. Donc effectivement, si jamais le vendeur dit des choses qui ne sont pas vraies, réelles, vérifiées, eh bien ça s'apparente à de l'escroquerie, quoi. Et alors ça dans nos dossiers, on en voit tout de même beaucoup, malheureusement.
Eh ben, alors, d'après le premier bilan là de cette loi, il paraît que les annonces en ligne pour vente de chats et de chiens ont chuté de 30% en un an. C'est une bonne nouvelle.
Alors, ça, je n'avais pas ces chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est que moi, mes dossiers, j'en ai en tout cas beaucoup moins. C'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de dossiers de contestation de vente liés à ce qu'on appelle des ventes suspectes, quoi, par des gens qui seraient peu scrupuleux de la réglementation.
D'accord.
Donc effectivement, il y a peut-être un lien de cause à effet. En tout cas, moi, je vous dis, oui, depuis un an, on a, alors, je ne sais pas si 30% ou pas, je n'ai jamais fait le calcul au cabinet, mais en tout cas, effectivement, on voit tout de même un ralentissement de ce genre de contentieux.
Alors, mais il semblerait quand même que certains petits malins arrivent à contourner la loi.
Ah ben oui.
Alors, je sais pas si vous avez eu ça aussi comme affaire. C'est-à-dire
comment font-ils?
Alors, au lieu de mettre je vends tel chien, voilà, exactement. Et, parce que quand on vend, on doit avoir un numéro sirène, donc ça veut dire inscrit à la chambre d'agriculture, etc. Même si on est un particulier. Et là, ils disent je donne tel chien. En revanche, tel chiot.
Il y aura des frais de je sais pas quoi.
De participation, de temps.
Alors, il y a pire. Il y a des gens qui se mettent en association de protection. D'accord. Qui vont dire qu'il donne des animaux retrouvés, mais comme par hasard, les animaux retrouvés ont toujours plus de 8 semaines. Vous voyez? Et donc, on les donne, mais non, on les donne pas, parce que, alors, attention, ils vont pas exiger des prix à hauteur de 1000 euros. Non, ça va être 500 euros. Ça va être 500 euros de frais. Sauf que si vous démultipliez 500 euros de frais par 10 chiots d'une portée, oui, parce qu'il y a une obligation qu'on a oublié tout à l'heure, c'est effectivement que le vendeur doit déclarer le nombre de chiots et informer du nombre de chiots de la portée à l'acheteur, eh ben, effectivement, vous comprenez vite que 500 fois 10, ça fait 5000 euros. 5000 euros qui passent hors des yeux du fisc et qui sont sans obligation. Donc, alors, ça existe. Ceci étant, là encore, j'en ai pas tellement, parce que effectivement, c'est souvent du one shot. Hein, je veux dire, les gens sont vite identifiables et identifiés. Et,
on n'a plus de vigilance.
Oui, parce que maintenant tout est traçable. Donc il suffit qu'il y ait le cas. On informe les services compétents, notamment les services vétérinaires, les DDCSPP ou le service du fisc, et ça se reproduit plus. Mais effectivement, ça existe, bien sûr, bien sûr.
Et alors, on a une question d'Aurélien, un auditeur, qui dit « J'ai acheté un chiot croisé bichon à un particulier qui m'a dit qu'il était pucé. » Ce qui est quand même la loi, ce qui est l'obligation.
Oui, bien sûr,
et d'ailleurs, l'identification, faut le dire aussi, même en cas de don, on est obligé, c'est obligatoire.
Oui.
Et il me dit que je n'ai aucun document qui le prouve et il ne répond plus à mes appels. Bien sûr, le vendeur ne répond plus à ses appels. Alors
la réponse est dans la question, c'est-à-dire qu'effectivement, le vendeur, n'a certainement pas dû respecter l'obligation d'identification. Il l'a vendu comme tel. Et puis c'est vrai que nous, en tant que particulier, quand on acquiert un animal, nous n'avons pas le décodeur, si je puis dire. Enfin, on doit avoir les papiers. Mais alors ça arrive par contre régulièrement. Mais rassurez-vous monsieur, là je suis pas vraiment au clair, mais je vous les envoie par la poste demain. Ouais. Et puis on les reçoit jamais.
Peut y avoir des vols aussi. On revend.
Il peut y avoir des animaux qui ont été dépucés après avoir été volés parce qu'on fait une incision, on enlève l'impuce.
Mais c'est pas si facile que ça. Alors ça, je peux vous dire que.
C'est pas facile.
Des trafiquants qui sont organisés, qui enlèvent des puces étrangères pour mettre des puces françaises, qui font ça. Parce que.
Et on peut pas désactiver la puce.
Pas du tout.
Ça marche pas. Ça.
Non.
On peut pas l'effacer à distance.
Non, c'est
assez complexe. Dans tous les cas, là, dans son cas, là, moi, ce que je lui conseille, c'est tout de même d'aller déposer dans une gendarmerie, un commissariat, une plainte. Non, même pas contre X, mais nominative contre ce monsieur, puisque effectivement, il pourrait être, les services de gendarmerie ou de police pourront aller chez lui voir un peu ce qui se passe. Et là, peut-être que ça le fera réagir et qu'on connaîtra le fin fond de la chose.
Mais on risque quoi si on vend un animal sans être identifié ou sans tous les papiers? On risque quoi?
C'est des peines d'amende.
Ah voilà. Oui.
Mais élevé ou pas?
Non, autour de 400-500 euros.
Oui, ça veut dire que bon, ça vaut peut-être le coup pour certains de se dire bah je tente.
Oui, vous savez, on n'est pas dans des niveaux de répréhensibles élevés. Je veux dire, alors maintenant, effectivement, il y a peut-être la peur du gendarme, mais c'est pas coercitif au point d'empêcher celui qui veut mal faire de mal faire. Voilà.
Et alors, si on parle souvent de problèmes médicaux avec des chiots qu'on a achetés ou des chatons, et vous nous avez dit comment aller contre l'éleveur, mais quand il s'agit de particuliers, par exemple, j'achète un chien, il a une dysplasie de la hanche, est-ce que je peux avoir le même recours contre un particulier que contre un éleveur professionnel?
Alors, effectivement, ne s'appliquera pas au vendeur particulier, donc qui par définition n'est pas un vendeur professionnel, c'est-à-dire on rappelle ce qu'est un vendeur professionnel. Un vendeur professionnel, pour la jurisprudence de la Cour de cassation, est celui qui retire l'essentiel de ses revenus de l'activité pour laquelle il peut être poursuivi. Ça, c'est un point important. Eh bien,
donc ça veut dire que le numéro sirène ne suffit pas?
Non, il faut simplement... C'est l'article 92 du Code général des impôts. C'est-à-dire que vraiment la Cour de cassation s'arc-boute sur l'article 92 du Code général des impôts. D'où viennent vos revenus? Vos revenus viennent de l'activité de commercialisation. Vous êtes professionnel. Ils ne reviennent pas. On peut revoir, mais c'est moins évident. Donc pour répondre à la question, malgré ça, bien évidemment, on peut agir contre le vendeur. Alors on n'agira pas sur les bases du code de la consommation, les articles L211-11 et suivants, mais on agira sur le vice rédhibitoire, sur le vice caché... voire même sur la réticence de l'OSIE. Enfin, non, il y a vraiment des possibilités d'action.
Ah oui, donc ça veut dire c'est pas parce que c'est un particulier, on va pas se dire c'est un particulier, on peut rien contre lui.
Il y a quand même
des recours. Heureusement, parce que si vous voulez, là, c'est la porte ouverte à tous les abus. Hein.
Maître, merci beaucoup. Merci.
Eh ben, c'est moi qui vous remercie, c'est un grand plaisir.
Ben, comme toujours, maître.
À la prochaine fois, alors.
Au revoir, madame de la Ligne. Au revoir.
Et vous venez nous voir quand vous voulez, maître. Ça sera avec plaisir.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Maître Xavier Baquet, avocat à la Fondation 30 millions d'amis. Cher Yolaine, est-ce que vous pourriez avoir les premiers gestes de secours envers un animal de compagnie?
Ça doit pas être facile.
C'est pas facile.
Tous
hein.
les animaux, chiens, chats, chevaux.
Éléphants
etc.
surtout.
Éléphants. Je suis meilleure pour les baleines. Mais le reste.
Vous avez du souffle alors, oui. Parce que la baleine, c'est pas facile. Hein. On en parle dans un instant avec Laetitia et notre invité qui sera là, le 32-16, animaux@rmc.fr. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlera.
C'était RMC, merci d'être là, bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est très bon dimanche, encore 10 minutes, une dizaine de minutes à passer ensemble avant de retrouver la météo, les infos et un spécial présidentiel présenté par Thomas Chupin et Chloé Cambrelin. Vous l'avez compris, il n'y aura pas de rendez-vous auto en ce 23 avril, ce qui est logique, hein. Mais nous serons de retour avec Jean-Luc Moreau dimanche prochain. Laetitia, nous sommes toujours avec Yolaine Delabigne, notre invitée depuis 7h, et nous allons maintenant parler des premiers gestes de secours qu'on peut donner à son animal de compagnie en cas d'accident.
Et savez-vous qu'il y a des formations comme pour nous, pour les premiers gestes de secours? Oui, dont des formations qui sont données par le centre Alform, qui est un centre spécialisé dans la rééducation animale et qui se trouve au sein de l'école vétérinaire d'Alfort. Et nous sommes avec le docteur vétérinaire Artem Rogalev. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, qui est bonjour. Vétérinaire au centre de rééducation. Je vous présente Yolaine Delabigne. Et alors, vous proposez depuis le début de l'année donc des journées carrément de formation aux premiers soins. Alors d'abord, est-ce que c'est une demande de propriétaires, de vétérinaires, de comment vous avez décidé de faire cette formation?
Alors, du coup, effectivement, c'est un peu une demande de la part des propriétaires. Donc, on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus proches de leur animal et, effectivement, ont envie d'apprendre, comme pour l'humain, les gestes de premier secours, comment réagir pour stabiliser une situation d'urgence, comment éviter qu'elle ne s'aggrave avant d'aller chez le vétérinaire. Donc, c'est une formation qui est vraiment ouverte à tous, particuliers, professionnels, donc éducateurs, toiletteurs, pour apprendre tous ces gestes.
Alors, quelles sont les erreurs fréquentes observées quand on veut porter secours à un animal? Qu'est-ce qu'on fait de plus mal?
Alors, souvent, on oublie de se mettre en sécurité. Comme pour le secourisme humain, la première chose, c'est vraiment d'éviter un suraccident.
C'est-à-dire?
On oublie également de se mettre, en fait, si notre animal a été percuté par une voiture, par exemple, de se mettre en dehors de la chaussée pour ne pas être percuté.
Ah, moi je pensais plutôt au chien qui mord parce qu'il a mal. Voilà.
Ça, c'est la deuxième erreur très fréquente, c'est qu'on oublie de se protéger. On ne se protège pas assez contre les morsures, contre les griffures du chat. Mmh. Et puis très souvent aussi, on se focalise sur l'apparent. Donc on voit que notre animal a une plaie et on oublie d'évaluer la situation au global. L'animal pouvant avoir une lésion interne, par exemple, qui sera beaucoup plus grave et beaucoup plus une urgence absolue que la plaie, finalement, qui peut être secondaire. Alors, donc, c'est vraiment les erreurs les plus fréquentes qu'on voit.
Alors, pendant cette journée, on apprend quoi? On apprend, je crois qu'on apprend sur des mannequins et après sur des chiens et des chats, c'est ça?
Oui, alors on apprend beaucoup de choses. On apprend à faire un bilan de santé rapide et global de son animal, comme on vient de le dire, de reconnaître les signes d'urgence vitales pour notre animal. Et puis, bien sûr, de gérer une plaie, de faire un point de compression en cas d'hémorragie ou comment réagir dans les principales urgences. Et bien sûr, la réalisation du massage cardiaque si un jour ça s'avère nécessaire. Et cette partie pratique se fait donc en grande partie sur un mannequin. Donc, on a un mannequin chien comme on a des mannequins humains en secourisme.
Oui.
Et il nous semble important également d'avoir un animal vivant, là pour le coup, pour observer les paramètres physiologiques, prendre une fréquence cardiaque, une fréquence respiratoire, l'hydratation. Et puis, comment maintenir l'animal dans ces situations de secourisme.
Alors, on reçoit un petit diplôme, c'est ça, à la fin de la journée?
Alors, ce n'est pas tout à fait un diplôme, c'est une attestation, mais effectivement, on reçoit une attestation à la fin, qu'on a bien suivi cette formation. On a un petit questionnaire à la fin pour s'auto-évaluer un petit peu, pour voir ce qu'on a retenu de la journée. Et voilà, on repart avec ça pour la suite.
Bon, est-ce qu'on est obligé de faire un bouche à bouche parfois ou pas?
Alors, quand on a une réanimation cardio-respiratoire à faire, il y a le massage cardiaque, mais également
bah, chez l'homme. Et oui, insuffler de l'air. Et voilà.
Voilà, et on insuffle de l'air à l'animal et on appelle ça effectivement du bouche à truffe pour l'animal.
Le bouche à truffe.
Et voilà. Écoutez, je vais vous apprendre ça.
Oui. Vous savez quoi, j'ai sauvé mon chien, j'ai lui ai fait du bouche à truffe.
Et pour un cheval, comment on fait pour lui faire le bouche à
naso?
Alors, nous, on est effectivement plus sur du secourisme chien-chat.
Oui.
Mais on a également des choses aussi pour aider, mais la réanimation cardio-respiratoire du cheval est quand même beaucoup plus complexe.
Ouais. C'est sûr.
Bah, pour l'éléphant, au moins, il suffit de souffler dans sa trompe. Ça devrait marcher, en fait.
Et pour le dauphin, on est mal. Hein.
Pour le dauphin, on est très mal.
Alors.
Et ça coûte combien, Artem?
Alors, c'est une journée qui coûte 99 €. Et donc, on a vraiment une partie tout le matin et l'après-midi, une partie théorie, une partie pratique. Mais on essaie vraiment d'axer ça sur la pratique pour les gens ne sortent pas qu'avec des connaissances, mais aussi des compétences pratiques réellement applicables tout de suite si une situation d'urgence venait à se présenter.
Et on repart avec le livre, les premiers soins pour mon chien, pour mon chat et la petite,
et
mallette,
la petite mallette
de secours.
Voilà.
On faisait gagner ce matin aux auditeurs.
Voilà, pour prendre en charge les urgences principales de notre animal, tout à fait.
Parfait. Donc, dans cette mallette, il y a des
désinfectants.
Des sparadraps, des choses comme ça.
Couverture de survie, bande, enfin, il y a beaucoup de choses. C'est très bien fait en plus. Et le petit bouquin est très bien illustré.
D'accord.
C'est bien de réviser comme ça chez soi après cette formation. En tout cas, c'est super de faire cette formation. Il y a plusieurs dates. On les mettra sur notre site internet, sur la page
Facebook
plutôt,
de vos animaux.
De vos animaux. Et c'est à Maison Alfort, hein, au sein de l'école vétérinaire.
Merci Artem. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Bonne journée. Au revoir.
Laetitia, on va terminer avec un drone maintenant, un drone de surveillance et de qui est là aussi pour protéger la faune sauvage. Et on en parle avec Julien Lerche qui est là. Bonjour Julien.
Bonjour Julien.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous avez mis au point Aube. J'adore ce nom. Parce que vous êtes ingénieur, originaire d'Alsace, et Aube est un.
Ah, ça aurait été bien qu'ils soient originaires de l'Aube, mais bon.
C'est un drone qui pourrait bien avoir un rôle dans la protection animale. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, votre drone?
Alors déjà, son nom ne lui vient pas du département, mais plutôt du temps, le matin, on va dire.
Mais du lever du jour.
Où le soleil est le plus joli, donc les paysages sont radieux, et c'est là où est venu le nom du drone. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce drone? C'est un drone qui vole grâce à une voile de paramoteur.
Ouais.
Donc c'est une voile de parapente, miniature.
Il ne fait pas de bruit, donc.
Voilà, l'intérêt, c'est qu'on vole avec la portance de la voile et non pas avec la portance des hélices, comme les multirotors. Donc du coup, on peut arrêter ou mettre le moteur au ralenti pour voler quasiment sans bruit, à part au décollage où là, forcément, on est obligé de mettre un peu le moteur. Mais sinon, pour voler de façon stationnaire ou descendre, on peut même couper le moteur.
Oui, après, ça plane, en fait. Ça va planer après, c'est ça?
Comme un oiseau, on peut même utiliser des thermiques. Et monter sans moteur, utiliser les courants d'air ascendant, etc., pour voler sans l'aide du moteur dans la totalité.
Et alors, tout de suite, vous avez trouvé une utilisation pour ce drone, c'est l'observation et la sauvegarde aussi des animaux, parce qu'il ne perturbe pas les animaux.
Voilà. Alors, en cherchant un peu l'utilité de ce drone était déjà bien déterminée avant. Mais on s'aperçoit tout de suite que les qualités de vol lent, silencieux et d'un vol assez long, parce qu'on tient quand même une heure de temps en vol avec une seule batterie, ça permet de pouvoir faire ce que les autres drones ne peuvent pas faire, c'est approcher des espèces sauvages sans les perturber dans leur mode de vie, donc vraiment en les observant de manière la plus neutre possible, et donc tout ce qui est observation, étude et protection de la faune sauvage, ça c'est le point le plus intéressant pour l'évolution de ce drone.
Et je crois que des ONG sont intéressées par votre drone, notamment pour des animaux en Afrique du Sud.
Alors en Afrique du Sud, je suis pas encore allé. Effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer Sergio Lopez de l'ONG Wildlife Angel. Grâce à lui, on est parti au Niger la fin du mois dernier pour tester déjà le drone, donc testé par les 45 degrés à l'ombre qu'il y avait pendant cette période, et aussi testé avec une équipe d'anti-braconniers pour savoir si effectivement c'était un outil très intéressant ou pas. Donc on a fait des tests, on a pu apporter beaucoup d'améliorations sur le drone, parce que le drone à l'heure actuelle était testé en France, en Alsace, mais pas du tout en Afrique encore.
Oui, donc les conditions climatiques ne sont pas les mêmes, j'imagine que ça modifie...
C'est ça, les conditions climatiques, les gens aussi ne sont pas les mêmes. L'environnement n'est pas le même, la poussière n'est pas la même, etc. Donc tout ça, ça permet quand même de se rendre compte de la réalité du terrain dans laquelle il va opérer. Et j'ai pu améliorer du coup quelques pièces du drone qui avaient souffert un peu de la chaleur. Et on a pu aussi voir la manière dans laquelle on pouvait l'utiliser de manière très facile et positive pour les animaux.
Et vous voulez juste surveiller les animaux, leur déplacement, et aussi surveiller les braconniers, c'est ça?
On peut se dire que le drone a plusieurs utilités. On peut parler déjà de tout ce qui est tourisme. S'imaginer un tourisme aérien sans nuire à la tranquillité des animaux. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on peut...
C'est-à-dire qu'on pourrait approcher, on pourrait avoir des documentaires formidables, en fait.
Voilà, on peut approcher les animaux sans forcément être repéré. Et quand on est dans les 4x4 en safari pour observer les animaux, on peut pas voir énormément de choses,
ça perturbe,
etc. Et si après on part à pied, c'est tout de suite plus dangereux et plus compliqué d'approcher les animaux pour sans les perturber et sans se mettre en danger nous aussi. Donc du coup, le drone peut très bien être là en appui aérien pour pouvoir voir tout ce qui se passe aux alentours et pouvoir observer des animaux qu'on pourrait pas voir depuis le 4x4 ou depuis la Terre. Pour avoir une vision globale et beaucoup plus détaillée de ce qui se passe autour de nous.
Merci beaucoup Julien, et on souhaite bon vent, c'est le cas de dire, parce que là il en a besoin,
Aube.
À Aube, ce drone de surveillance donc.
Merci Yolande Delabigne.
Alors,
je redis que vous êtes auteur de « L'animal est-il l'avenir de l'homme » aux éditions Larousse, et j'annonce aussi votre prochaine université d'été de l'animal. Elle aura lieu du 25 au 27 août au château de la Bourbancée, c'est en Ille-et-Vilaine. Et sinon, si vous voulez beaucoup plus de renseignements concernant cette université et le livre, allez sur l'animalet-l'homme.fr. Là, vous aurez tout sur l'intelligence animale.
L'animalet-l'homme.fr. Yolande, merci beaucoup.
Merci mille fois.
Merci, merci.
Dans un instant, un spécial élection présidentielle, donc premier tour sur RMC, après la météo et les infos de 8h. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Salut à tous.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.